circule toujours car la grippe résiste mieux au froid qu'à la chaleur. L'arrivée des vacances scolaires devrait arranger les choses. 653 000 cas ont été recensés la semaine dernière.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Rendez-vous pour des enregistrements dans le Finistère. Aujourd'hui à Carantec à 18h30 et demain à Quimperlé également à 18h30. À très bientôt dans le Finistère.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, c'est l'heure de Daniel Mermet là-bas, si j'y suis.
Ben Ali, dégage. C'est fait. Moubarak, dégage. Ça ne saurait tarder. Sarkozy, dégage. Oh, croisons les doigts.
Putain, qu'est-ce que je voudrais être tunisien ou égyptien en ce moment. J'ai 70 ans et si un jeune veut gueuler Sarkozy et tactique, dégage. On sera au moins deux. C'est Antoine Duvar.
Bien le bonjour, monsieur Daniel Mermet et toute l'équipe de France Inter qui participe à cette émission. Félicitations, car je suis très heureux. J'ai enfin trouver quelqu'un qui m'a converti à l'économie de marché et au capitalisme. J'admire M. Bolloré et je crois que je vais sur l'heure demander ma nationalité française, prendre ma carte à l'UMP. Merci à tous et merci à ce cher reporter, M. Julien, dont je ne me souviens plus du nom de famille. Mais je trouve ça vraiment remarquable d'avoir réussi à tenir un raisonnement, enfin disons une émission qui permet de nous convaincre de cette façon-là. Je m'aperçois que nous, les gens de gauche, qui ce soit aux Amériques ou en France, nous avons été calomnieux à l'égard du capitalisme. Ce sont vraiment de très, très, très braves gens. Et merci à tous. Et on s'amuse bien avec vous. Je vous écoute depuis Montréal, quand je suis là-bas chez moi. Et c'est passionnant. Au revoir.
C'est pas paysan qu'il fallait qu'on fasse comme métier. C'est pas paysan bio. C'était Bolloré qu'il fallait qu'on fasse comme métier. Quand je comptais mes petits sous que j'ai ramenés du marché tout à l'heure, j'écoutais votre reportage sur Bolloré. Je me dis, mais bon sang, il est formidable ce type, il fait plein de choses pour la planète. Nous, à part proposer des bons produits aux consommateurs, des produits bio, on fait pas grand-chose. Mais lui, c'est fantastique, il est en train de sauver l'Afrique, il est en train de faire des choses, des produits, là, cette batterie fantastique pour la planète, mais c'est merveilleux. Et puis, ben, il fait du pognon, quoi. Franchement, c'était Bolloré qu'il fallait qu'on fasse comme métier. On n'a rien compris. Hein. Allez, salut.
Bonjour, je suis camerounaise d'origine et j'étais au Cameroun en octobre. Le fait d'entendre ce Bolloré parler à votre émission d'hier, j'étais en rage. Et s'il vous plaît, la prochaine fois que vous aurez l'occasion de le rencontrer, lui et son équipe, j'aimerais faire partie du lot. Quoi. J'aimerais lui parler. Je ne suis pas journaliste, hein, je suis enseignante, mais vraiment, alors là, ça, j'étais dans tous mes états. Le fait de l'entendre parler aussi tranquillement. Merci.
Je suis très inquiet. Je n'ai pas entendu s'exprimer notre hyper-combatif représentant des droits de l'homme, nous faire part de ses pensées de penseur ultra-cognitif, basé sur sa fulgurante intelligence, pétrie d'humanisme et de courage. Et oui, avec ce chambardement créé par des millions d'Africains opprimés, pourquoi notre BHL chéri ne s'exprime-t-il pas ? Extinction de voix ? Malade, dépressif, décédé. Non, là, je le saurais, hein. Si un AMG, c'est quelque chose qui me contacte vite, vite, je suis très, très inquiet.
Ça y est, le vrai représentant de l'opposition s'est montré hier. Obama et Israël, les États-Unis ne font rien sans les consulter. La fierté des manifestants en prend un sacré coup. Et d'ailleurs, qu'en pense-t-il ? Quand on voit le président de la Palestine, Mahmoud Abbas, qui est pour le maintien de Moubarak, sa détestation de la Cisjordanie et du Hamas va jusqu'à accepter ce président, le premier pays arabe à reconnaître Israël. Ses chefs d'État n'ont plus la fierté de Nasser et Arafat. Quelle déception! Salut!
Bonjour à tous. Nos hommes politiques conseillent au gouvernement égyptien d'écouter le peuple et de ne pas user de violence. Ce sont pourtant les mêmes qui font matraquer des manifestants d'Anduze dans le Gard. Voir pour cela la vidéo amateur intitulée « Violence gratuite des forces de l'ordre sur Dailymotion ». C'était Edith du Gros du Roi. Au revoir.
Bonjour à tous, merci pour ton émission. Il y a la queue au Resto du Cœur, la queue au Secours catholique, au Secours populaire. Avec l'argent du contribuable, il se paye un avion. qu'il fait garder la villa de son copain par des CRS, eux-mêmes protégés par un ministre condamné à deux reprises. Ils sauvent leur emploi et sont fiers de taper sur des lycéens, sur des manifestants à terre, sur des employés qui défendent leur travail. Tout un symbole. Si les électeurs savent compter, l'heure de l'addition approche. 2012, dégage.
Eh oui, bien sûr, ça devait arriver que ce mot dégage, que l'effet domino, c'est la Tunisie, c'est le Maghreb, c'est aussi le monde arabe. Et puis, on apprend que c'est la Chine aussi, mais on dit, mais attendez, ça va être le monde entier. Et voilà, ça revient, c'est le boomerang. Dégage, un boomerang en forme de ce mot dégage. Deux choses à vous dire sur cette violence incroyable contre des manifestants à Anduze. Effectivement, comment les gendarmes ont gazé et cogné des gens qui manifestaient pacifiquement dans ce petit endroit qui s'appelle Anduze, vous savez, avec la fameuse et magnifique bambuseraie. Regardez cette vidéo, on l'a mis sur là-bas.org, là-bas.org, mais vous pouvez la voir un peu partout, elle circule sur le net et ça donne une idée de la violence incontrôlée dans notre bel hexagone. Et puis, autre chose, demain jeudi 3 février, l'association Le Mai Daniel Ben Saïd organise une soirée à Toulouse, salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat à Toulouse, à 20h30, en hommage à Ben Saïd qui a disparu l'année dernière, il y a un an. Ça s'intitule évidemment « La résistance à l'ère du temps ». J'y serai, on se verra là, avec d'autres pour discuter de sujets d'actualité. On va pas rendre un hommage dithyrambique et toute la soirée, bien évidemment, qu'on va aborder un certain nombre de sujets locaux, des choses des luttes à Toulouse. Et puis évidemment, on évoquera ce qui se passe en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Voilà, ce sera donc demain 20h30. Aujourd'hui, une petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Une petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. C'était un message qu'on avait reçu d'un auditeur. Une petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine en lien avec la disparition d'une maman. C'était un auditeur comme ça qui nous avait dit ça dans un message. Bref, voilà. Et sur la boîte bleue, il était écrit « Mediator ». Et c'est une histoire vraie. Et ça nous intéresse beaucoup de savoir comment on en est arrivé là, avec cette histoire de Mediator. Est-ce qu'il s'agit d'un dysfonctionnement, d'une malheureuse bavure, comme il en arrive souvent, hélas. Et voilà, il faut prendre des mesures disciplinaires de toutes sortes. Ou bien est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui relève du système, d'un système? Et si c'est bien ça, ce que entre nous, nous serions plutôt enclins à penser, comment lutter contre ça? Comment s'y prendre? Est-ce qu'on se fait pas à nouveau, comme toujours, griser et rouler et enfariner par autant d'effets d'annonces? C'est le reportage de Pascal Pascariello aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Khaled Ansi. Aujourd'hui, mercredi 2 février, cela fait 400 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Tapronier, ainsi que leurs trois accompagnateurs afghans, sont retenus prisonniers en Afghanistan. Aujourd'hui, mercredi 2 février, cela fait 3365 jours que les soldats français sont engagés dans un conflit armé en Afghanistan, dans l'indifférence quasi générale, et que le peuple afghan subit une guerre qui ne dit pas son nom. Nous ne les oublions pas.
Bonjour les amis, dans le mercato des actions, il y a beaucoup à faire. Le prochain repère aura lieu mercredi 2 février au poulailler à Bègle à partir de 19h. En première partie, attaque Gironde avec la défense des retraites, le forum de Dakar, information sur le G8-G20. Et en seconde partie, les organisateurs du forum changer la société.
Henri, est-ce que vous vous méfiez des laboratoires ou pas?
Non, je pense qu'il y a beaucoup de verrous de sécurité. Je pense qu'il y a une recherche où les laboratoires sont largement impliqués. Je pense que pour l'instant, on est dans une surenchère médiatique, je pense.
En même temps, sur le médiateur, il y a eu des cas de décès avérés.
Vous en connaissez? Vous, oui, personnellement, puisque... vous connaissez quelqu'un qui a pris du médiateur et qui est décédé? Mais voilà, je pense qu'on n'a pas de chiffres réels, de quantification réelle du problème. Il y a eu sûrement des abus dans l'usage de ce médicament qui n'est pas le fait du laboratoire, qui est le fait peut-être de certains praticiens qui n'ont pas mesuré peut-être l'ampleur du mésusage de ce médicament. Il faut faire la part des choses, il faut un peu faire confiance aussi aux études et aux experts, je crois. Et voilà.
C'est des scènes qu'il ne faut pas rater. Hein. C'est la meilleure façon de s'exonérer soi-même de responsabilité, c'est de dire « rien n'est prouvé encore ». Et vous en verrez dans 10 ans qui diront encore « Attendez, moi, j'ai pas vu quelqu'un qui prend un comprimé de médiator et qui tombe foudroyé, donc j'ai pas de preuves. » Non, c'est une façon de s'abriter soi-même, de pas avoir perçu le problème.
Salut Daniel. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine.
1er décembre 2010.
Ma mère est morte en janvier 2006. Les deux dernières années de sa vie, elle avait de graves problèmes diagnostiqués, une valvulopathie. Les valves du cœur étaient complètement détériorées. Et à l'époque, on ne savait pas pourquoi. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Un an avant sa mort, ma mère a accepté de se faire opérer des valves du cœur. Mais rien n'y a fait. Son état s'est lentement dégradé. Fatigue, souffle au cœur. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Ma mère est morte en janvier 2006. Elle avait 58 ans. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. C'était du Mediator. Elle en a pris 3 comprimés par jour pendant 10 ans. L'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, déclare que, selon une étude de la CNAM, le Mediator aurait causé entre 500 et 1000 morts. Cette même agence, l'AFSAPS, a attendu le 30 novembre 2009 pour retirer le Mediator du marché en France, alors que les effets nocifs de la molécule sur les valves cardiaques sont connues depuis 1997.
En effet, le rapport de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, a décrit comment le laboratoire Servier a délibérément menti et caché pendant près de 30 ans que le médiateur était un anorexigène, c'est-à-dire un coupe-faim. Il faut arrêter le robinet à poison. Bruno Toussaint, qui s'est fait une réputation justement récemment à ce sujet, le directeur de la revue Prescrire, s'inquiète de l'influence croissante des laboratoires sur le médicament et affirme que 1 sur 5 des médicaments mis sur le marché ne devraient pas être autorisés. Au moins 20% des médicaments ne devraient pas être autorisés selon la revue Prescrire. C'est dire si le Mediator n'est pas un cas unique. On continue avec le professeur Even.
Quand on est chercheur en France, un labo peut nous payer pour participer à un colloque comme celui-ci?
Ah ben bien sûr, il y a des congrès promotionnels, ça n'a plus rien à voir, organisés par l'industrie pour promouvoir une molécule nouvelle qu'elle veut commercialiser. Alors là, ça lui coûte cher. Ça lui coûte cher parce qu'elle paye le voyage à tout, si c'est la cardio, à tous les cardiologues français. Hein. Mais qu'est-ce que c'est sinon des opérations de promotion commerciale? Bon.
Et ensuite, il y a les rémunérations beaucoup plus importantes d'expertise, enfin oui, d'essai, c'est
oui.
Ça. Hein.
Là, il y a deux catégories, là encore, tout est compliqué. Hein. Il y a d'abord des rémunérations qui sont données au service qui fait le travail, pour qu'il puisse fonctionner mieux avec de meilleurs appareils, avec une secrétaire de plus, et que l'État est incapable de financer. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans une unité de recherche, les 3/4 des crédits viennent du secteur privé.
Les trois quarts.
Mais on ne peut pas travailler avec la seule subvention de l'État. C'est impossible. C'est comme ça au degré près dans tous les pays du monde. Mais en France, l'État, c'est 25% en moyenne, avec les variations. Aux États-Unis, c'est 50%. En Angleterre, 50% aussi.
Aux États-Unis, en Angleterre, il y a une participation de l'État plus élevée dans la recherche.
La recherche biologique, oui, beaucoup plus élevée. Et en France, on n'en met que 10 ou 15%. Le financement de la recherche dans son ensemble, c'est essentiellement dirigé vers ce qui apparaît du prestige cocardier nationaliste à l'État, c'est-à-dire le nucléaire, l'espace, etc., qui ne sont pas d'ailleurs de la recherche. Pour moi, ce n'est pas de la recherche. Hein. C'est de l'ingénierie appliquée qui progresse. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne politique. Et puis, il y a d'autre part des rémunérations personnelles qui sont accordées pour les avis qu'ils peuvent donner, les conférences qu'ils peuvent faire, les articles qu'ils peuvent écrire, la diffusion de l'information à laquelle ils peuvent participer. Autrement dit, il y a deux carrières dans la médecine universitaire, celles qui travaillent avec l'industrie pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché et ceux qui, ensuite, jugent impartialement et en dehors de tout intérêt personnel, de la validité des découvertes qui ont été faites par les autres. Il faut séparer les juges et les parties. Dans tout, c'est comme ça. C'est un principe de droit qui remonte à plusieurs siècles, hein. Alors, qui est bafoué tous les jours, en particulier en France. Je voudrais que les produits mis sur le marché soient jugés par d'autres médecins également compétents qui préfèrent ne pas travailler avec l'industrie, mais juger le plus exactement possible la valeur des produits.
Pour être commercialisé, tout médicament fabriqué industriellement, comme le Mediator, doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
LCI.
Les laboratoires déposent un dossier auprès de l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, appelée autrefois l'Agence du médicament.
16 novembre 2010.
L'AFSAPS est chargée d'évaluer ce produit, de le contrôler et de l'inspecter. Elle doit également exercer une mission de vigilance sanitaire. Or, ce sont ces mêmes laboratoires qui financent majoritairement l'AFSAPS, mais pas seulement.
Allô?
Oui, bonjour, je suis bien à l'hôpital Paul Brousse.
Oui, au secrétaire du professeur Wittkock.
Pascal Pascariello, je travaille pour France Inter et je cherchais à joindre justement le professeur Wittkock parce que j'ai tenté de le joindre à l'agence du médicament à l'AFSAPS.
Là, il est en réunion à l'extérieur.
Vous savez s'il a un bureau sinon à l'AFSAPS, à l'agence du médicament?
Oui, vous pouvez joindre l'AFSAPS.
D'accord, mais il s'occupe des autorisations de mise sur le marché des médicaments?
Oui.
Parce que je sais qu'il préside cette commission depuis pas mal de temps, non?
Là, vous êtes au secrétariat de... Vous êtes à Paul Brousse, c'est ouais. Un hôpital. Donc moi, je m'occupais pas du tout de la SAPS.
Et en même temps, j'ai vu qu'il y présidait aussi le groupe de travail sur les médicaments de l'infection par le VIH.
Oui.
C'est ça, puisqu'il est spécialiste, plus ou moins, dans ce domaine, hein?
Oui.
D'accord. Et j'ai vu qu'également, justement, il avait fait une étude pour le laboratoire GSK sur le VIH, justement. Allô?
Je ne vais pas vous répondre. Si vous voulez joindre M. Wittkock, vous lui envoyez un mail.
Alors, eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a envoyé un mail et on a réussi à joindre le professeur Daniel Wittkock.
Allô?
Monsieur Wittkock.
Oui.
Vous travaillez pour des laboratoires pharmaceutiques.
Je fais des essais thérapeutiques à la demande de mon administration, de l'assistance publique.
Vous avez combien de contrats avec les laboratoires pharmaceutiques?
À l'heure actuelle, je dois avoir 2 ou 3 contrats avec l'industrie.
Est-ce qu'on peut connaître justement la hauteur des rémunérations?
Aucune idée. Je ne connais pas les chiffres.
Vous avez bien vu qu'en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché, il y a eu un problème. On se rend compte que le fait d'être rémunéré par les laboratoires pharmaceutiques ne rend pas toute indépendance à l'expert. On a vu évidemment le cas actuel du Mediator. Vous présidez cette commission. Est-ce que là, il n'y a pas eu une erreur?
Vous voulez dire sur le... Non, je ne discuterai pas du Mediator parce que comme il y a des actions au jour d'aujourd'hui publiques et politiques, je ne vais pas m'exprimer là-dessus.
Oui, mais vous présidez la commission d'autorisation de mise sur le marché.
Oui.
Donc, en tant que président de cette commission...
Moi, je suis responsable de... Je coordonne cette commission depuis 6 ans, donc c'est la partie finale. Alors, si vous souhaitez discuter de ça, à ce moment-là, on arrête la discussion. D'ailleurs, il va falloir qu'on arrive au terme, quand même. Si vous voulez avoir la forme d'un pensée, je pense avoir la conscience tranquille, mais si je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, donc il ne faut pas aller plus loin. Voilà, au revoir.
Au revoir.
À tes souhaits, 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 à tes souhaits. À ses souhaits, 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 à ses souhaits.
Ben voilà, je voulais m'intéresser aux experts, aux fameux experts, hein, les professeurs des services hospitaliers. Je suis tombée sur une annonce faite par l'association Cross World Healthcare Professional. En fait, c'est une association qui a été montée par des lobbyistes et qui organise justement une table ronde à l'hôpital américain à Neuilly, un hôpital privé, autour des experts et de l'industrie pharmaceutique, sur le thème justement optimiser les collaborations entre les institutions de recherche et de soins et les industriels de santé. Alors parmi les intervenants, on a donc des professeurs, des néphrologistes, des oncologistes qui font partie à la fois, ou qui ont fait partie à la fois de la FSAPS, Agence du médicament, et qui en même temps ont travaillé pour des laboratoires comme Novartis, Baxter, Sanofi. Donc bon, ça tombe à merveille.
Voilà, ça tombe à merveille. Lobbying, voilà, lobbying. Vous vous souvenez des sujets qu'on avait fait sur Edward Bernays, cet Américain qui a inventé les relations publiques et qui montrait que... qui était le deux fois neveu de Freud, si vous vous souvenez, et qui a inventé l'enfarinage. C'est un de nos interlocuteurs disait ça tout à l'heure. L'enfarinage, ben oui, c'est rouler les gens dans la farine. Alors, il y a des domaines où c'est pas dramatique, c'est simplement malhonnête, mais c'est pas dramatique s'il s'agit de vendre des casseroles ou des choses, bon, secondaires. Enfin. Mais quand il s'agit quand même de la santé humaine, de la santé des hommes, qui ne peuvent que faire confiance, qui n'ont que leur que ça, puisque voilà, il y a des savants, il y a des scientifiques, et en face, il y a des gens qui souffrent et qui espèrent voir leur souffrance réduire. Et qui il y a quand même un encore une fois, j'y insiste, une opposition féroce entre ces forces-là. Et puis il y a cette puissance extraordinaire du lobbying et le retrait de l'État. Il y a des domaines évidemment qui doivent être absolument soustraits au profit, l'éducation bien sûr et évidemment la santé.
Je suis consultant, mais bon, je travaille ou pour l'industrie ou pour le monde académique.
Vous, votre association, en fait, comment ça se passe? Vous l'avez montée il n'y a pas...
Ben, on l'a montée en début d'année, ouais. 2010.
Cross World Healthcare.
Oui, parce qu'on était convaincus...
Professionnel.
Cross World Healthcare Professionnels, parce qu'on est convaincus, en fait, que bon, il faut qu'on cross-fertilise au niveau international, surtout...
Cross-fertiliser, ça veut dire
ben, partager des idées au niveau international. Deuxième truc, on s'est dit, il faut qu'on trouve un forum pour appréhender les choses de manière différente, en totale liberté de ton, et voir ce qu'on peut faire ensemble.
L'idée de se dire, les industriels n'arrivaient pas à voir vers quel chercheur ils pouvaient aller, les chercheurs ne voyaient pas vers quel industriel aller, et les élus, il faut les mettre un peu au courant.
Tous ces acteurs dans la santé, ils ont une longueur de retard par rapport à ce qui s'est fait dans l'aéronautique, dans l'automobile, ou... quand bon, Renault envisage de construire une voiture, eh bien, il associe ses sous-traitants de premier rang et puis dit bah, voilà, il va falloir mettre un moteur, il va falloir mettre une transmission.
Oui, alors qu'en plus,
voilà.
C'est la deuxième industrie, hein, la pharmacie.
Il faut qu'on imagine d'autres façons de gérer la relation entre l'industrie et les centres de recherche et de soins. On n'en est plus à l'ère du délégué médical, c'est plus ça. On a besoin de ce qu'on a appelé des stratégiques account managers. C'est des gens qui travaillent à très haut niveau et qui identifient des pistes de travail collaboratives.
Oui, il faudrait entre voilà. guillemets l'équivalent d'un visiteur médical voilà. pour des chercheurs. Pour dire ce même plus... lien qui a été fait entre le laboratoire et le médecin devrait être trouvé pour le faire plus facilement entre les chercheurs et l'industrie pharmaceutique. Enfin... C'est des grands laboratoires, ils n'ont pas ça?
Non, parce qu'ils étaient dans une logique d'intégration verticale, en fait. Ils avaient leur centre de recherche intégré, ils vendaient du produit, du médicament. Et puis patatras, puisque avec cette façon de travailler, on avait du mal à trouver de nouvelles choses. Donc, petit à petit, ils ont pris conscience qu'il fallait développer des partenariats avec des universitaires, parce que bon, aujourd'hui, les études montrent que 80% de l'innovation vient des académiques.
Enfin, les vraies découvertes viennent plutôt des académiques que de l'industrie.
80%. Donc la question, c'est comment on fait pour que les découvertes soient industrialisées, parce qu'il y a aussi des découvertes, malheureusement, qui passent dans le domaine public. Alors, bon, c'est bien pour le patient, mais,
oui, c'est pas mal pour le patient.
Mais pour la compétitivité du pays, c'est pas très bien. Enfin,
bah pour l'industrie, elle perd.
Et puis pour la compétitivité du pays. Bah, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on se met en mouvement, hein, ça va.
À ton avis, pourquoi faut choisir Zipadera ? Concentre-toi, baby. Concentre-toi.
Maintien de l'efficacité.
Continue. Concentre-toi.
Souplesse de dosage. Toutes les 2 à 4 semaines. Prescrire. Oui, je veux prescrire. Oui, je veux prescrire.
Zipadera. Prescrivez-le. Sinon, ça pourrait mal se passer.
Une vidéo qui fait grand bruit dans le milieu. Ce produit Zipadera, qui est figuré par une sorte de tigresse, une panthère. C'est une scène sadomaso qui, à coup de fouet, intime à un gros pépère de prescrire le produit. Et il se déloque, il se retrouve cul nu avec des coups de fouet sur le museau pour... prescrire. C'est une métaphore très violente, évidemment, qui ne plaît pas à tout le monde, sur ce que nous essayons de décrire et que vous connaissez parfaitement, qui est le poids des laboratoires sur, eh bien, sur la santé en général, mais par le truchement des chercheurs et des médecins. Un médecin en voilà un, un chercheur en voilà un, le professeur Debré, que vous connaissez, Bernard Debré, qui va prendre le taureau par les cornes, un véritable tremblement de terre. On va séparer le médecin et le laboratoire. Les liens qui existent entre eux ne sont pas sains. Et ce Bernard Debré a la charge qui lui a été donnée par le président de la République soi-même, de faire enfin la séparation entre l'un et l'autre, le médecin et le laboratoire.
Je suis Bernard Debré, professeur, chef de service, membre du comité national d'éthique, député UMP de Paris.
Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts ?
Ah, j'en ai aucun, je n'ai aucun contrat avec les laboratoires. Contrat, zéro. Alors, je suis allé voir le président de la République en décembre, qui m'a confié une mission. J'ai demandé si je pouvais venir avec Philippe Even, qui est mon ami.
Philippe Even, président de l'Institut Necker.
Et donc, nous allons voir comment faire pour que les médicaments soient mis sur le marché de façon honnête et correcte, surveillés de façon efficace, retirés quand il faut les retirer.
Et justement, donc le premier point que vous avez abordé...
Il faut que tous les experts soient indépendants. Un certain nombre de médecins peuvent et doivent travailler avec l'industrie. Il faut être clair. Mais là, ça pose deux problèmes. D'abord, le nombre des contrats avec les laboratoires. Et actuellement, certains ont jusqu'à 55 contrats. Ça, ce n'est pas tolérable. Et il y a des médecins qui gagnent jusqu'à 100 000 euros par mois. Je vous laisse réfléchir. Sont-ils, à qui appartiennent-ils ? Ils ne s'appartiennent plus. Et ça, peut-être faut-il mettre une barre raisonnable. Mais en tous les cas, il ne faut pas que ces médecins soient experts nulle part. Les conflits d'intérêts sont inacceptables. Quand on veut être expert auprès d'une agence, l'agence de mise sur le marché, l'agence française de sécurité sanitaire, on doit être irréprochable. Donc, ne pas avoir de conflits d'intérêts. Il faut que les agences elles-mêmes soient indépendantes, parce que l'agence française de sécurité sanitaire a un budget. Qui lui donne son budget ? Eh bien, l'industrie pharmaceutique. 80% du budget, c'est l'industrie pharmaceutique, 20% l'État. Donc là, pas un sou des laboratoires pharmaceutiques.
Experts indépendants, agences financées par l'État.
Troisièmement, quelles seront les techniques pour d'abord faire de l'information médicale pour les médecins à la faculté, formation médicale initiale, formation médicale continue pour les médecins tout au long de leur vie. L'enseignement post-universitaire, il est fait, payé, par les laboratoires. Il y a ce mélange, cette consanguinité qui peut rester. D'abord, il faut la connaître. Il faut qu'elle soit publique. Mais qu'elle ne soit pas la base de l'enseignement post-universitaire. Et nous avons plein de, comment dirais-je, en termes agréables, petites entorses à l'éthique, faites par les laboratoires.
La question se pose également au niveau des ministres, puisque...
J'ai dit que pour un ministre, quel qu'il soit de droite comme de gauche, l'ignorance est le début de la responsabilité. S'il y a une leçon qu'il faut bien comprendre, c'est que là aussi, dans les ministères, les conflits d'intérêts peuvent exister. Non pas forcément uniquement avec les collaborateurs directs, mais il faut regarder en profondeur s'il n'y a pas des fonctionnaires.
Vous avez parlé de tremblement de terre.
Parce que je ne veux pas servir d'alibi. Si jamais ce débat, nos propositions ne servent à rien, je le dirai.
Merci à tous. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Merci à tous. Je rappelle la soirée débat de l'association Le Mai Daniel Ben Saïd, demain soir, jeudi 3 février, à partir de 20h30 à Toulouse, salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat et à Toulouse. Et je serai parmi les participants à la technique aujourd'hui. Éric Morin et Michel Bézikian, Coy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Quant à Marina Touillez, elle attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Il est 16h et quelques secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Escalade de la violence au Caire. L'armée, qui s'était gardée d'intervenir jusqu'à présent, a tiré en l'air pour mettre fin aux accrochages entre manifestants pro et anti Moubarak. Ces heurts violents avec jets de pierre et coups de bâton ont fait des dizaines de blessés. Les bagarres continuent sur la place Tahrir et dans les rues adjacentes, près du musée du Caire. Des soldats ont formé une chaîne pour protéger l'entrée du musée. L'armée égyptienne avait appelé ce matin les manifestants à rentrer chez eux, mais les opposants, qui réclament le départ immédiat du président Moubarak, refuse de partir et l'appel à une grande manifestation vendredi est confirmé. L'une des figures de l'opposition, Mohamed El Baradei, accuse le gouvernement de recourir à la tactique de la peur et craint que les événements ne tournent au bain de sang. Du côté du pouvoir, l'Égypte rejette les appels à une transition immédiate après des appels répétés en ce sens de la communauté internationale. C'est ce qu'indique le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères. Le cyclone tropical Yasi vient d'atteindre la côte du nord-est de l'Australie. Le bureau de la météorologie fait état de vents violents et de vagues immenses. Des milliers d'habitants et de touristes avaient été évacués préventivement. Michel Alliomarie se défend des accusations d'avoir profité des largesses d'un homme d'affaires tunisien lié au clan Ben Ali. Elle a notamment voyagé dans le jet privé d'Aziz Miled. La ministre conteste que l'homme soit un proche de l'ancien président. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, la ministre des Affaires étrangères a dit avoir toujours payé ses vacances, voyages et hôtels. Plusieurs voix de l'opposition appellent à sa démission. Peine confirmée en appel pour les 9 personnes jugées dans le procès dit du Sentier 2. La Cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations de 3 mois avec sursis à 5 ans de prison ferme. Il s'agit d'une affaire de blanchiment remontant aux années 90. Mais le feuilleton n'est pas encore terminé. L'un des condamnés va se pourvoir en cassation. Le blanchiment était basé sur l'échange entre la France et Israël de chèques contre de l'argent liquide, ce qui permettait à des sociétés de dissimuler au fisc une partie de leurs revenus. Après la mort de Laetitia, le syndicat de la magistrature accuse les défaillances dans le suivi du meurtrier présumé de la jeune fille Tony Meillon sont dues au manque d'effectifs. Le syndicat révèle que le ministère de la Justice avait décidé fin 2010 de ne pas pourvoir le poste vacant depuis un an au service de l'application des peines à Nantes. Le suivi de Tony Meillon, sorti de prison en février 2010, avait donc été abandonné avec l'accord de la hiérarchie administrative et judiciaire. 4 navires de la SNCM sont bloqués à quai à Marseille et en Corse. Les marins CGT ont reconduit la grève lancée lundi pour dénoncer une diminution des liaisons entre Nice et la Corse. Un Christ en bois du XVIe siècle a disparu dans le centre de la Belgique. Cette statue en chêne peint de 2 mètres de haut a visiblement été volée dans la chapelle du château d'Hougoumont, un des sites de la bataille de Waterloo en 1815. Victor Hugo avait fait mention de cette statue dans son roman Les Misérables. La porte du bâtiment qui venait d'être restaurée a été forcée. Et puis c'est le dernier film de Woody Allen, Midnight in Paris, qui fera l'ouverture du prochain Festival de Cannes en mai prochain.
Tous les dimanches, okay, à 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous demain dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon et le carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Tout à l'heure, à 16h30, je recevrai le très grand pianiste Roger Muraro pour un disque tout récent. C'est Berlioz qui est en cause, revu par Franz Liszt. Liszt, on sait bien qu'on célèbre son année. Là maintenant, il aurait eu 200 ans. Si c'était possible, ce serait bien, mais enfin non, ça ne marche pas. Et puis, il donne aussi un concert, Roger, le jeudi 10 février au Théâtre des Champs-Élysées. Il va venir nous dire ça. Mais tout de suite, on va entendre un enregistrement plus ancien de Roger Muraro. C'est tiré d'Iberia, d'Isaac Albéniz, et c'est la description d'un port, et on pense que c'est le port de Cadiz. Je vais citer une phrase de Claude Debussy qui est vraiment très frappante, et qui dit « Que désirer dans un pays où les pierres des chemins brûlent les yeux, où les muletiers tirent du fond de leur gorge les plus sincères accents de la passion, sages et bienheureux seraient les pays qui conserveraient jalousement cette fleur sauvage à l'abri du classique administratif. » Quand il parle de la fleur sauvage, il parle de la musique espagnole, bien sûr. Mais Debussy était un bon critique, en plus d'être un musicien génial, il a su apprécier évidemment la musique venue de l'Espagne sous la plume et sous les doigts, inspirée par exemple d'Isaac Albéniz. Thank you. El Puerto, le port